Alors, il y a deux 19e siècles, c'est-à-dire qu'on va être obligé de tailler dans le vif de cette époque. À l'évidence, on pourrait passer des années sur le 19e siècle pour la richesse qui est la sienne. Moi, je vous proposerai un premier temps cette année que j'intitulerai « Le démonisme social ». Le démonisme social, et pas forcément l'hédonisme social, on a déjà eu l'occasion de dire ce qui distinguait l'un et l'autre concept, c'est-à-dire l'hédonisme suppose que le plaisir est le fin mot de l'affaire et que le démonisme, lui, suppose que c'est le bonheur qui est le fin mot de l'affaire. Donc le démoniste propose le bonheur comme souverain bien, l'hédoniste propose le plaisir, et puis après on peut faire des discussions de jésuites pour se demander si le bonheur est possible sans le plaisir, si le plaisir conduit au bonheur, quel rapport, etc. Mais donc j'ai conservé l'expression « eudémonisme social », puisque cette contre-histoire de la philosophie est aussi, était au départ, son titre c'est « Les génies de l'hédonisme », mais c'est une façon de montrer qu'il y a une histoire de l'hédonisme, c'est une façon de répondre à quelqu'un qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de philosophe hédoniste, pas de philosophie hédoniste, je me suis dit ben, on va faire une dizaine de volumes pour montrer qu'ils ont existé. Donc voilà, c'est une réponse longue à une remarque un peu brève, mais... On aura l'occasion de montrer donc qu'il y a une philosophie hédoniste et l'hédonisme au XIXe n'est plus une affaire individuelle. C'est fini, enfin on verra que la deuxième partie le rend ça encore possible, mais c'est fini l'affaire du bonheur tout seul, pour soi seul, mais on pense qu'il faut réaliser le bonheur de l'humanité et que le bonheur de la société, ce sera le bonheur des individus qui la constituent. Voilà pourquoi j'ai parlé de démonisme social. Alors on va parler de William Godwin, qui est le grand-père de Frankenstein, mais je vous dirai pourquoi et comment. On parlera ensuite de John Stuart Mill, et je vous dirai pourquoi une dépression nerveuse a produit un effet considérable dans la pensée du libéralisme, parce que le libéralisme a été possible du côté du socialisme. Mill est un personnage intéressant. Jeremy Bentham, un petit peu avant lui, philosophe complètement oublié aussi, qui n'est pas que le philosophe du panoptique, dont Foucault a fait une critique assez juste, dont Surveiller et punir en 75, ni même le philosophe de l'épicerie ou de l'épicier, comme Marx a pu le dire. C'est une grande pensée, c'est une pensée importante, Jeremy Bentham. On a dit que Stuart Mill n'était que le disciple de Bentham, c'est pas vrai. Il y a un texte extrêmement violent qui nous dit quelle liberté il prend à l'endroit de la pensée de Jeremy Bentham. On ira voir là du côté de l'utilitarisme. Il s'agira donc de voir ce qu'est l'utilitarisme et ce qui constitue le noyau dur de cette pensée-là. On abordera également les questions du socialisme avec Robert Owen, Fourier et Bakounine. Owen est un personnage intéressant, juste en deux mots, puisqu'on leur consacrera à chacun trois séances, mais c'est quelqu'un qui démarre à pas grand-chose, petit ouvrier, qui devient patron et qui devient un patron de gauche et qui essaie de faire fonctionner l'entreprise avec le souci du bonheur de ses employés et qui, par la suite, va passer du socialisme au communisme en créant des communautés et qui va laisser une trace extrêmement importante et qui générera par la suite l'essentiel des pensées socialistes. Marx lui doit beaucoup et on verra pourquoi, quand et comment. Fourier est un personnage que j'adore parce que c'est un vrai fou furieux. Lui, il pense que les planètes copulent, que quand on aura fait la révolution, on transformera un jour la mer en vaste étendue de limonade, qu'un jour il nous poussera un archibras dans le thorax, parce que comme ça c'est plus facile quand on a trois bras. Il fait une hiérarchie du cocuage, il dit qu'il y a des cocus magnifiques, des cocus heureux, etc. Enfin, vous verrez, c'est un personnage fort sympathique, socialiste au demeurant. Et Bakounine, grande santé anarchiste. J'ai failli intégrer Proudhon, mais qui n'est pas, lui, hédoniste, pas du tout. Et puis, il y a de l'antisémitisme chez Proudhon, il y a de la misogynie chez Proudhon, il y a des contradictions chez Proudhon qui font que je l'ai laissé de côté, mais probablement pour le retrouver un jour avec vous, si on finit ce cycle de contre-histoire de la philosophie et qu'on entame une histoire de la pensée libertaire où il aura sa place, puisque c'est un père fondateur de la pensée anarchiste. Ça, c'est pour cette année, c'est le programme de cette année. Programme de l'an prochain. Donc, après le démonisme social, ce que j'ai appelé les radicalités existentielles, c'est-à-dire que ce sont des figures qui semblent un peu perdues dans ce grand siècle, dans ce long siècle, et qui ont chacune, ces figures, des choses à nous dire. Je pense à Stirner, par exemple, l'unique et sa propriété, dont on a fait un philosophe anarchiste, qui n'est pas plus anarchiste que ça, puisqu'il a servi aussi bien à Mussolini qu'à Lénine, de bréviaire à Mussolini et à Lénine. On verra que cette pensée est plus complexe que ça, elle est très anti-hégélienne, mais en même temps, elle pose le problème de l'individualité radicale. Qu'est-ce qu'un individu radical? Jusqu'où peut-on être un individu? On abordera un autre continent qui, pour l'instant, n'existait pas en philosophie, qu'est le continent américain, avec Emerson, et je le dirai à la française désormais, mais Thoreau, pour le dire, vous m'aurez entendu le dire une fois, mais maintenant c'est fini, Thoreau, donc, qui lui fait partie de ce qu'on appelait les transcendantalistes. On expliquera ce que sont les transcendantalistes, qui sont des gens qui se réclament de Kant pour le transcendantalisme. Vous verrez la différence entre transcendance et transcendantalisme, c'est pas bien compliqué, ce sont des histoires de mots. Et moi je pense qu'il y a un transcendantalisme épicurien qui est efficace dans les États-Unis de l'époque, chez Emerson et chez l'autre là. Et puis trois figures intéressantes, parce que Si on fait une contre-histoire de la philosophie, on ne va pas faire l'histoire de gens qui sont des grandes pointures, donc on ne va pas parler de Marx, ou alors de manière seconde. Et on ne va pas parler non plus de Nietzsche de manière première, mais de manière seconde. Mais on en parlera, bien sûr, comme on a parlé de Descartes avec Gassendi, comme on a parlé de Voltaire avec les matérialistes français. C'est cette façon de faire de la contre-histoire qui, bien sûr, est une façon de faire de l'histoire. Et donc, on abordera trois figures qui sont très intéressantes, me semble-t-il. Paul Rey, qui a écrit un petit livre sur l'origine des sentiments moraux, qui a beaucoup influencé Nietzsche et qui a fait partie d'une espèce de désir de trio qu'ont eu ces trois-là, c'est-à-dire Nietzsche, Lou Andrea Salomé et Paul Rey, de faire une espèce de cloître dans lequel tous les trois travailleraient intelligemment à leur projet en mélangeant leurs idées. Enfin, c'est une belle aventure, une belle entreprise qui se terminera mal à cause des femmes, bien sûr. Ah, ça c'est un... Dès que je dis un truc misogyne, c'est à cause des femmes. Le pauvre Lou, qui est une figure intéressante aussi. Et vous verrez que la psychanalyse s'inspire beaucoup. Elle est une des premières psychanalystes et elle est en correspondance. Et elle connaît bien, évidemment, Freud. Donc, on parlera de Freud avec Lou et on parlera de Nietzsche avec Rey et Lou. Et puis, on parlera également de Jean-Marie Guyot, un philosophe qui disparaît très tôt, génial, génial, qui meurt à la trentaine et qui écrit un très beau livre qui s'appelle « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ». Petit livre qui sert beaucoup à Nietzsche. Et Nietzsche, c'est souvent comme ça dans la profession, mais quand on pille quelqu'un, la plupart du temps, on ne dit pas qu'on le pille, et le nom disparaît totalement de l'œuvre. Il est totalement inexistant. Et Nietzsche ne parle ni de Stirner, ni de Guyot, et pourtant, ce sont deux individus qui ont beaucoup compté dans la fabrication de son surhomme et de sa théorie. Donc voilà les deux 19e siècles que je vous propose, un 19e pour cette année, et puis un 19e pour l'année d'après, quoi.